Est-ce que ça enregistre?
C'est quoi ton terrain d'écriture actuel?
Il est très vaste parce que ça peut être un peu n'importe quel terrain. Là, je te parle d'un point de vue même géographique.
C'est un projet, je pense, hybride. C'est une sorte d'ethnographie que j'ai
fait. Ça m'a permis de prendre beaucoup de liberté par rapport aux formes littéraires que je connaissais.
Je ris aussi de l'autorité, du savoir.
Aujourd'hui, je vous présente ma discussion avec Daphné B. Daphné B est poète et spécialiste des médias numériques. Elle est l'autrice des livres Beautiful, Delete, Maquillée et La pluie des autres. Elle signe maintenant des chroniques sur la culture web pour la presse et son infolettre et son balado Choses sérieuses proposent des analyses approfondies de phénomènes culturels, économiques et sociaux. Elle est titulaire d'une maîtrise en recherche-création de l'UQAM et d'une maîtrise en traductologie de l'Université Concordia. Son essai « Maquillée », traduit dans plusieurs langues, a remporté le prix des libraires. Son recueil de poésie jeunesse « La pluie des autres » a été finaliste au prix du gouverneur général et elle est la penseuse en résidence au Théâtre La Licorne pour la saison 2023-2024. Pendant notre discussion, on a parlé de musique, de son nouveau projet de livre, de Fernando Pessoa, d'objets, de miniatures et de plein d'autres choses. Notre rencontre a eu lieu au printemps dernier et la première question que j'ai posée à Daphné concerne son moment d'écriture de prédilection. Quand est-ce qu'elle écrit dans sa journée?
Le matin ou bien le soir très tard. Ce qui fait que mon horaire d'écriture, ben ça bouge là, mais ça rend pas la cohabitation facile. Comme c'est pas quelque chose qui se marie avec quelqu'un d'autre, mettons.
Puis pourquoi le matin ou le soir? C'est parce que c'est des espèces de moments un peu liminaires ou c'est juste comme ça que...
Non, je saurais pas pourquoi. C'est juste comme ça. Tu sais, je sais qu'il y a des gens là qui ont vraiment des horaires d'écriture, qui essayent comme de s'imposer des routines. Moi, ça a jamais fonctionné. De la même manière que ça a jamais fonctionné pour moi, genre de tenir un journal intime. Tu sais, il faut que j'accepte que c'est comme quand ça vient, c'est là, puis je le fais.
Puis quand t'écris, moi je te connais, donc je sais, je remarque certaines choses. Puis t'as quand même une présence sur les réseaux sociaux. Puis tu publies beaucoup la musique que t'écoutes. Il y a des chansons, il y a beaucoup de musique folk, il y a toutes sortes de styles de musique, mais même des ambiances du bruitage. Je me souviens d'une plateforme que tu m'as partagée où est-ce qu'il y a des sons vraiment intéressants, des sons de ville aussi. Tu travailles avec toutes sortes d'arrière-plans musicaux. Mm-hmm. Comment écouter de la musique puis écrire, ça va ensemble?
Pour moi, c'est justement une façon de me replonger dans un espace méditatif que je suis habituée de visiter, revisiter, revisiter. Fait que tu essaies de replonger dans ton texte. Mm-hmm. Fait que souvent, la musique que j'ai écoutée pour écrire, c'est comme de la musique que j'écoute continuellement, tu sais, en boucle. Fait que je vais souvent revenir vers les mêmes chansons, les mêmes artistes, même pour plusieurs livres différents. J'ai aucune originalité. Mais c'est pas vrai parce que j'ai eu une grosse phase reggaeton. Mais là, depuis au moins deux livres, je dirais que j'ai vraiment beaucoup écouté Grouper.
Oui,
mais continuellement, puis les mêmes chansons. Puis on dirait que, justement, ça me permet de pas écouter la musique parce que je sais déjà, par exemple, les mêmes playlists. Tu sais, une liste de lecture où tu sais à quoi t'attendre, tu sais c'est quoi les paroles, tu sais c'est quoi la prochaine chanson. Mais j'ai pas besoin d'être à l'écoute parce que c'est pas comme du matériel nouveau que j'ai besoin d'absorber. C'est juste comme vraiment quelque chose qui m'aide à retrouver comme un état d'esprit que je connais déjà. Tu sais, c'est quasiment comme quand je me maquille. Tu sais, pour commencer ma journée. Tu sais, tant que je suis pas maquillée, j'ai pas l'impression d'être entrée dans une espèce de vie publique. Ben là, c'est la même chose avec la musique. C'est comme si je retrouvais comme un état d'esprit particulier, genre.
Ça fait partie de l'espace d'écriture.
Mais dans le fond, je pense que je sais aussi pourquoi c'est le matin puis le soir. C'est parce que c'est des moments où je vais comme lire. Puis souvent, je fais de la lecture avant mon écriture. Mmh. Fait que je vais lire, puis surligner, puis des fois retranscrire des passages. Puis après ça, je vais écrire.
Il y a une dimension musicale aussi à ton écriture.
Ouais.
La pluie des autres, je te l'ai dit, il y a vraiment un rythme très particulier dans ce livre-là. Ton dernier livre, qui est un recueil de poésie jeunesse.
Mm.
Puis je suis pas la seule à l'avoir remarqué. Il y a presque un désir de faire de la musique là, dans tes textes. Tu as aussi un peu une aura de chanteuse folk là, qui est comme qui est pas loin de toi.
Britney Spears.
Britney,
cette grande chanteuse folk.
Comment tu vois ça comme à l'intérieur de tes livres eux-mêmes?
Ben ça vient contaminer des livres. Tu sais, il y a vraiment, j'ai copié des paroles de chansons puis je les ai intégrées à même le texte. Puis je pense qu'ils sont pas, même pas en italique. T'sais, il faut vraiment être à l'écoute du texte pour les voir. Mais après ça, à la fin du texte, t'as une playlist. Puis j'ai mis les chansons en ordre d'apparition dans le livre. Fait que je sais pas s'il y a tant de personnes qui ont remarqué, mais vraiment, je reprends des paroles de Daniel Bélanger, de Lana Del Rey. Lana Del Rey qu'on retrouve aussi dans Beautiful, comme Billie Holiday. T'sais, c'est comme des correspondances, là, entre plusieurs chanteuses qui chantent le blues de la mal-aimée.
Oui, Billie H. est au début, ouais. Je pense, de Delete ou de Beautiful. Là, je les ai toutes en même
Beautiful, puis en fait, c'est que j'ai mis Billie H., j'aurais mis Billie Holiday, mais c'est que les paroles sont trafiquées. Fait que moi, je les ai changées. Ça a l'air d'une... comment on appelle ça? D'une citation, une exergue,
mm-hmm.
Mais ça ne l'est pas. En fait, ça fait partie de mon livre. ouais.
Ça fait partie du travail d'appropriation.
Oui,
aussi,
parce que c'est mon poème. C'est modifié. Je ne sais plus, c'est comme « Lady sings the blues, she tells the world ». Je ne me souviens même plus du poème, mais tu retrouveras ça nulle part dans la musicographie de Billie Holiday. Là.
C'est Billie H, version Daphne B.
Ouais.
Il y a une autre pratique que tu as pendant que tu écris, que je remarque aussi, encore une fois, parce que je te connais, fait que donc je sais un peu dans tes moments d'écriture comment tu apparais sur les réseaux sociaux, mais tu postes étonnamment beaucoup quand tu travailles. Pas,
ouais.
Pas nécessairement quand tu écris, mais un peu des deux, en fait.
Ouais.
Tu as une présence active sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. Peut-être Facebook un petit peu moins, mais quand même.
Mm-hmm.
Pourquoi ces choses-là? Puis est-ce que tu revisites les posts que tu fais ou c'est plus de l'ordre de l'expérience, tu sais, d'habiter le temps et le lieu virtuel?
Bien, c'est parce que je pense que autant que la musique vient comme contaminer mon texte, puis si les paroles de chansons se retrouvent dans mes textes, autant c'est le cas avec ce que je consomme sur Internet. Fait que ça soit des conversations que j'ai avec mes amis, des posts que je vois ou des vidéos YouTube, ça aussi, ça se retrouve dans mes textes. Fait que c'est comme de manière simultanée où je suis dans mon atelier, mettons, mon lit, devant mon ordinateur. Puis mon ordinateur aussi, c'est une extension de cet atelier-là, de ce lieu-là d'écriture. Fait que je sais pas si je revisite vraiment mes posts, mais c'est un peu comme si je prenais des notes. T'sais, avant, j'avais un cahier. Avant chaque projet, avant, j'avais toujours un cahier. Là, je viens d'en racheter un, d'ailleurs, où je prenais des notes manuscrites. T'sais, ça pouvait être une conversation que j'entendais dans la rue ou ça pouvait être une citation dans un livre que je lisais. Mais maintenant, c'est plus comme, ah, si je lis quelque chose, ça va être sur Internet. Fait que je vais le copier-coller dans mon bloc-notes sur mon bureau d'ordinateur. Si par exemple, il y a une vidéo YouTube qui m'a marqué, je vais le copier-coller. Fait que ça devient un petit peu comme difficile à suivre, là, parce que tout est éparse. Mais en même temps, comment consigner les documents numériques que je consomme dans un cahier? C'est comme anachronique, genre je...
Puis qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui va... Il y a des choses qui sont assez logiques, là, j'allais dire. Qu'est-ce qui va sur Twitter, sur Instagram? Il y a des médiums qui sont comme évidents, là, parce qu'il y en a un qui est plus du type discours, l'autre qui est plus image. Mais mettons, qu'est-ce qui fait qu'il y a des informations qui sont juste réservées à ton bloc-notes, puis d'autres que tu les mets sur Twitter? Tu as envie du moment de publication?
Je sais pas trop, mais c'est que chaque plateforme, chaque média permet comme une prise de parole qui est différente. T'sais, c'est comme un contexte différent tout le temps, puis une audience aussi qui est différente. Sur Twitter, je trouve que c'est comme une plateforme plus professionnalisée, là. Il y a comme plus de journalistes ou de gens comme en littérature qui vont me suivre ou que moi, je vais suivre. Fait que je vais pas nécessairement suivre des amis, mettons. De toute façon, je sais pas si on a tant d'amis sur Twitter. Tu sais, c'est comme, c'est vraiment particulier, là. Puis des fois, ça m'arrive, c'est aussi le genre de médium où, tu sais, c'est vraiment des gazouillis, tu sais, c'est des tweets. Fait que c'est pas obligé d'être vraiment super rationnel ou comme, j'ai pas obligé d'avoir, j'ai l'impression que c'est un genre de truc où c'est plus comme stream of consciousness, tu sais, le flux des pensées. Fait que si j'ai une pensée sur quelque chose, je vais la tweeter sans vraiment t'y réfléchir. Ça peut être des ébauches d'idées ou même des bouts de manuscrits, des bouts de poèmes que j'ai effacés ou que je vais genre tweeter comme ça. Puis je sais que les gens vont pas nécessairement me trouver hyper bizarre puis cryptique parce que c'est quand même une pratique courante là, sur Twitter de faire ça.
Oui, oui, puis t'as une présence assidue, fait qu'il y a une sorte de, d'habitude là, que les gens ont à te voir publier qui fait qu'il n'y a pas d'étrangeté dans ton usage des différents médias.
Oui, c'est peut-être ça. C'est comme, au final, c'est de garder comme une présence qui est comme cohérente. Là. Sur Instagram, ben je vais surtout publier des passages de livres ou des livres que j'aime, mais aussi des photos parfois avec des amis de voyage, là, je sais pas. C'est surtout des photos, puis après ça, il y a des choses récurrentes dans mes partages sur ma story Instagram. Des artistes que j'aime qui vont se retrouver souvent...
Ouais, il y a des motifs là, ouais. dans tout à fait, il y a une sorte de cohérence. Puis je pense que la plupart des gens qui te suivent activement ou qui t'ont entendu à la radio avant à ta chronique à Plus on est de fous, plus on lit, mais aussi qui ont lu Maquillé, savent que tu connais vraiment très, très bien la culture numérique. Tu disais, moi, je lis beaucoup, je lis le matin, je lis le soir. Mm-hmm. Ça fait partie de mes outils d'écriture. Ouais. Hein, c'est pas, j'écris pas pouf comme ça dans le vide. Mais parmi tes lectures, je sais que tu consommes beaucoup de contenu sur le web.
Ouais.
Donc, il y a vraiment, t'as vraiment comme un savoir là-dessus. Puis les gens qui ont lu Maquillé peut-être savent ou qui écoutent ton podcast savent que tu as commencé chose sérieuse. Bon, là, aujourd'hui qui est un podcast, mais qui a commencé par être une infolettre,
ouais.
Qui est née en 2019, si je me trompe pas.
Je sais plus.
Moi, je pense que c'est en 2019 ouais. parce que c'est comme ça qu'on se connaît. Moi, j'ai commencé à lire choses sérieuses. J'ai parlé de choses sérieuses à CISM, puis tu m'as entendu, puis c'est comme ça qu'on est entré en relation.
Mm-hmm.
Puis dans choses sérieuses, t'explorais la culture web, le maquillage, toutes sortes de phénomènes, puis tu continues avec le podcast. Comment t'as eu l'idée de créer l'infolettre, puis après le podcast?
L'infolettre, c'était vraiment cette idée que... Ben de un, c'était quand même commun et populaire. Là, avant Substack, qui est la plateforme d'infolettre qui permet de charger les utilisateurs ou les abonnés, là. Il y avait plusieurs poètes que j'aimais aux États-Unis, dont Anne Boyer, qui avait des infolettes. Puis moi, je trouvais ça intéressant parce que c'était une façon de partager des textes comme en chantier, mais avec un lectorat qui était comme plus intime. Puis même en tant que lecteur, c'était le fun de recevoir un bout de texte de temps en temps. Tu sais, c'était pas obligé d'être à chaque semaine, ça pouvait être une fois par 6 mois,
mm-hmm.
mais c'était toujours une surprise pour moi de découvrir, mettons, un texte de Anne Boyer dans ma boîte de réception. Fait que j'aimais ce format-là pour l'infolettre. Pour l'idée d'écrire sur le maquillage, c'était vraiment comme... parce que je m'étais mis à consommer beaucoup de contenu autour du maquillage, puis que je trouvais que les choses qui se passaient dans la communauté maquillage étaient vraiment intéressantes d'un point de vue sociologique. Puis j'avais vraiment le goût qu'on en parle, mais je voyais pas de texte qui était écrit là-dessus. Fait que je me suis dit, ben je vais le faire, puis je vais être obligée de parler, de décrire aux gens c'est quoi, parce que les gens savent pas c'est quoi. T'sais, j'ai vraiment l'impression, surtout ici à Montréal francophone, d'être une espèce de, tu sais, je sais pas, là, j'allais dire évader de la planète des débilos.
Mais oui.
Mais tu sais, c'était comme, j'avais l'impression que non seulement il fallait que j'analyse ce que je voyais, mais que je présente aux gens non initiés un univers qu'ils ne connaissaient pas. Fait que c'était comme un deux en un.
Mais oui, moi, c'est pour ça que je dis pas oui pour le débilos. Là.
Ouais.
Je disais oui parce que en effet, cette publication-là, elle sortait vraiment du type de contenu qu'on voyait, surtout dans l'espèce de langage essayistique un peu sociologique que tu as
ouais.
décidé d'emprunter pour l'infolettre. Moi, j'ai pas vu rien qui ressemble à ça, justement, dans le le monde littéraire québécois, francophone?
De toute façon, il n'y a pas, genre, je vais être vraiment dégueulasse, là, mais je veux dire, moi, il n'y a rien qui est publié, genre, vraiment en ligne au Québec qui m'intéresse. À l'époque, c'était le cas aussi, puis j'étais comme, merde, genre, c'est, je veux dire... Il y a tellement de choses qui pourraient être faites, tu sais, comme même au niveau de l'écriture journalistique, je suis pas associée au devoir, à la presse, whatever, j'ai genre la liberté totale. Qu'est-ce que tu fais quand t'as la liberté totale? T'écris-tu un esti d'essai comme on en lit, comme on en fait, comme on en crache à l'université? Non! Tu fais autre chose, tu te laisses aller, puis j'avais le goût de ça.
Te sentais-tu comme une extraterrestre au début? Avais-tu l'impression que, au pire, personne va le lire, je vais rester dans mon coin, ou t'étais assez convaincue que ça allait intéresser les gens?
Ben moi, je sentais que ça allait intéresser les gens parce que ça m'intéressait moi. Tu sais, ça part toujours d'un plaisir. Si t'as pas de plaisir à écrire, ben pourquoi les autres auraient du plaisir à te lire? Tu sais, il faut que ça... Moi, quand je t'investis dans un texte ou une enquête, là, tu sais, je le sens comme... C'est quasiment sexuel. Tu sais, je veux dire, tu sais, on parle pas souvent de ça, mais il y a quelque chose du désir puis de l'érotisme dans l'écriture, puis comme c'est tout notre corps qui est sollicité, puis si tu as cette énergie-là quand tu écris, ben c'est une énergie que tu veux transmettre aux autres.
Oui, oui, un désir de découvrir, là, il y a ce désir-là qui est dans l'écriture dont plein d'écrivains ont parlé dans l'histoire, là, qui est super important. Maquiller est né un peu de l'infolettre. C'est une commande maquillée. Je pense que les gens, que tu as dit ça déjà, tu l'as expliqué.
Ben, je l'ai dit dans des rencontres, mais je l'ai jamais dit comme dans un micro. Mais effectivement, c'est une commande. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a une photographe qui est venue chez nous dans ma chambre, où est-ce que je travaille, où est-ce que je vis. Puis là, c'était plein de maquillage partout. Puis elle était venue pour prendre des photos, puis je m'attendais pas à ce qu'elle prenne des photos dans ma chambre. Puis non seulement elle prenait des photos de moi dans ma chambre, mais elle prenait des photos de ma chambre. Fait que là, je me sentais, tu sais, gênée. Puis j'expliquais que je tripais sur le maquillage, puis que j'avais commencé à écrire là-dessus. Puis elle est allée en parler aux filles de Marchand de feuilles qui m'avaient déjà approchée. Ça faisait comme 2 ans qu'ils m'écrivaient pour que j'écrive un roman. Puis moi, j'étais comme « no way ». Puis là, on me dit « ben tu veux-tu écrire un livre sur le maquillage et tout et tout ». Puis là, moi, j'ai tout de suite senti... j'ai tout de suite mis les freins. Là, au début, je voulais pas du tout parce que j'étais comme... Ils me disaient « tu peux parler du Kohl, des Égyptiens ». Puis j'ai dit « hey, je suis pas une historienne ». Puis il y a aucun lien entre moi puis les Égyptiens. Le moment où j'ai compris, tu sais, j'ai mis un peu mes points sur la table puis mes conditions, puis que j'ai compris que j'avais la liberté totale, tu sais, vraiment, j'ai eu un beau cadeau, là. Cette liberté-là, c'est vraiment important pour moi en écriture, puis je l'ai eue, fait que j'ai dit oui.
À Mélanie Vincent, qui est la directrice chez Marchand.
C'est ça, ouais.
Puis après, je pense que ça a été très vite pour toi, écrire ce livre-là. Parce que en fait, l'infolettre existait, ou simplement parce que tu avais accumulé une sorte de pensée qui dormait en toi?
Oui, j'avais déjà écrit au moins 3-4 essais là-dessus. Ça faisait un an, même plus, que je lisais sur le maquillage, que je consommais du maquillage et des vidéos sur le maquillage. J'avais déjà un fichier dans mon ordinateur, justement pour l'infolettre, où je collectionnais les textes journalistiques, les livres, fait que j'étais déjà dans un processus de recherche, mais sans vraiment projeter écrire un livre, tu sais. Puis en plus, tout ça se liait, ça rimait genre aux recherches que moi j'ai faites à la maîtrise à l'UQAM sur les médias sociaux, fait que dans le fond, j'ai même pensé à un moment donné publier mon mémoire, mais tu sais, en plaquette. Puis là, je me suis ravisée parce que je sais pas pourquoi, j'avais comme un feeling que c'était pas ça. Mais finalement, tout ce que j'ai écrit dans mon essai théorique pour mon mémoire de maîtrise, ben je l'ai utilisé. Et, je veux dire, je l'ai pas repris, tu sais, de mon mémoire, mais toutes ces connaissances-là, je les avais déjà.
Puis ton mémoire, là, pour les gens qui savent pas, donc il y avait d'élite, parce que t'as deux maîtrises. Hein. Ouais. T'as une maîtrise en création littéraire de l'UQAM, puis t'as une maîtrise en traduction de Concordia. Puis ton mémoire à l'UQAM, donc il y avait d'élite qui était le projet de création. Puis il y a un essai théorique qui vient toujours avec la création. Puis ton essai portait sur le numérique.
Oui, c'était la poète 2.0. Je me souviens plus, là, genre, écrire autant des médias sociaux. Ouais. Puis finalement, tu sais, je pense que ça parlait moins de littérature que de la subjectivité lyrique, genre de l'identité littéraire au temps des médias sociaux.
Moi, une des choses que je voulais te demander ou aborder avec toi, c'est une réflexion que j'ai depuis longtemps, depuis même avant qu'on se connaisse, là, en te lisant, que je trouve impressionnant, c'est que dans tes œuvres, puis particulièrement avec Choses sérieuses puis avec Maquillée, il y a une pensée qui s'articule, vraiment la pensée d'une intellectuelle là, sur certains aspects de la société qui inclut l'économie, le social, la culture numérique, le genre aussi.
L'identité, beaucoup, je trouve, puis le deuil.
Mais exact, l'identité. Mais j'allais dire, non seulement il y a une pensée qui se construit, mais dans tes projets de création, il y a aussi, à travers justement la question de l'identité, puis peut-être de la mort, mais on y reviendra, il y a une forme de mise en abîme de ce que les médias vont faire de la personne qui est en train d'écrire le livre. Comme si d'emblée, le texte s'attaquait à ce que les médias faisaient avec les écrivaines et les écrivains, mais particulièrement les écrivaines. Puis on l'entend dans le titre, hein, « Chose sérieuse », c'est un peu une sorte de pied de nez. Hein. Je vais parler de choses que vous ne considérez pas comme sérieuses. Je suis maquillée et vous dénigrez ça. Il y a ça dans les deux
ouais,
titres.
Oui, maquillée, c'est frondeur, en fait, comme titre. Là. C'est comme un « fuck you
». Mais c'est intéressant parce que c'est deux projets qui ont marché très fort dans les médias, mais dans lesquels il y a beaucoup de colère aussi contre ce que les médias font, en fait, aux personnes, aux
créatrices. Et continuent de faire, même une fois que ma parole a été publiée, là. Mon Dieu.
Le paradoxe dans Maquiller, tu sais, le fait que tu t'en prends aux gens qui dénigrent le maquillage et tu t'en prends à la culture capitaliste qui est attachée au maquillage, mais en même temps que tu te montres en train de te maquiller et tu montres aussi la dimension émancipatrice que ça peut avoir le maquillage. Tu sais, il y a des ambiguïtés comme ça.
Oui, vraiment.
Mais il
ne faut pas les réconcilier. Hein?
Mais c'est ça, le réel est complexe. Ouais. Mais à chaque fois, moi, ça m'a impressionnée dans le processus de réception à quel point les gens tripaient sur cette mise en scène des paradoxes, mais n'arrivaient pas à ne pas simplifier la création. Choisissaient comme d'un côté ou de l'autre.
Ah mon Dieu, que les gens aiment ça, les trucs simples.
Oui.
Non, mais...
mais c'est ça.
C'est qu'il y a Chose sérieuse. Au début, quand j'ai trouvé le nom, j'étais comme, c'est ça, c'est sûr. Mais avant, j'avais un titre potentiel, puis c'était Blush Bull.
C'est bon.
Ça n'a pas rapport, mais ça aussi, c'est comme... Il y a comme dans cette espèce de titre-là qui veut rien dire. Ça aussi, c'est comme une blague, tu sais. Genre, c'est comme si je voulais tester mon public ou mon lecteur, puis... Vous pensez que je vais dire n'importe quoi, c'est vrai, regardez, ce titre ne veut rien dire. Blush Boule. T'sais, c'est comme si j'avais appelé mon podcast genre Bouboule.
mais il y a ça, les gens t'ont vu apparaître avec Maquillée parce que ça a marché fort. Mais avant ça, tu as toute une expérience de poète qui est très scénique.
Ouais.
Donc, cette réflexion-là sur l'identité, puis le côté un peu frondeur dans ta façon de t'adresser aux gens. En tout cas, on a l'impression qu'il est très assumé, il est très ancré dans tes talons, comme si tu étais encore une fois sur scène. Puis la dimension rythmique de ton travail, puis la dimension un peu... je me laisserai pas traiter n'importe comment, même si vous me jugez dès que j'apparais sur scène. C'est très fort, là, même dans le travail
essayiste. En fait, je pense... Ça, c'est un truc que je disais dans mes premiers poèmes. On me prend pour qui? On me prend cute. On me prend par la main en me disant « c'est incroyable ».
Oui, il y a ça dans
Je pense que c'est un piège, en fait. Moi, ce que j'essaie de... C'est que je joue le jeu de... Tu sais, parfois, je peux jouer ce jeu-là, de cette image-là de poète cute. Puis moi, je fais juste regarder ceux qui tombent dans le piège. Puis ces gens-là, je les écarte. C'est comme un piège pour moi, après ça, arriver à me protéger, tu sais.
Ouais. Mais oui, puis c'est aussi...
Tu me disais, par rapport à la vision quand même assez réductrice parfois qu'on a face à des ambiguïtés qui sont pas, qu'on veut pas nécessairement résoudre. Mais je sais pas si je dis n'importe quoi, mais justement, hier, quand j'étais dans un collège, il y a un professeur de français qui a commencé à me poser des questions, puis il me demandait comme un top 5 des œuvres que je recommande sur les apparences, le physique, alors que c'est tellement pas un sujet qui m'intéresse, tu sais. Puis là, il commence à faire un exposé devant les étudiants pour faire des parallèles entre le travail de Chloé Savard-Bernard. Roux clair naturel, c'est...
Fanny de Meul.
Tu sais, il y a beaucoup de femmes dans la littérature contemporaine au Québec qui parlent du physique, des apparences, dont toi. Puis là, j'étais comme, pardon, non, ce n'est pas mon sujet, tu sais, vraiment pas. Puis justement, c'est quelque chose que j'ai tellement, dans maquillage, j'aurais tellement pu en parler. Tu sais, juste la notion de beauté, je l'ai pas abordée, puis c'est très, très, très conscient, là, mm-hmm. tu sais, parce que c'est pas ça que je voulais faire avec le maquillage. Puis je dis oui, j'en parle parce que par la bande, tu sais, je suis une femme, puis je vis dans un corps de femme, puis je reçois toutes sortes d'injonctions, puis je pense que c'est normal quand on est une femme d'en écrire des trucs sur l'apparence parce que ça fait partie de notre réalité, mais c'est tellement pas un thème central dans mon œuvre que j'ai pas le goût de répondre à ta question, tu sais. J'en lis pas des livres là-dessus, là.
Ouais.
Puis ça, je trouvais que justement, c'était un parallèle, une vision tellement simpliste de qu'est-ce que je fais. Puis ça me. Puis tu sais, là, ça vient de la bouche de quelqu'un qui étudie en littérature, là.
Je me suis beaucoup interrogée à propos de maquiller sur la dimension gonzo. Tu sais, je trouve qu'il y a. C'est un essai qui contient aussi de la poésie, qui contient vraiment une part de récit de soi, mais il y en a plein des journalistes gars et femmes, mais il y a beaucoup de gars qu'on a beaucoup célébrés là-dedans, puis oui. Particulièrement dans la veine là, du journalisme gonzo.
Thompson, Hunter.
Oui, Hunter S. Thompson. Ouais. Mais il y a vraiment ce côté-là presque littéral dans ta démarche de « je vais expérimenter les choses et aller assez loin dans l'expérience du monde que je vais faire pour parler de ça. » Puis mais évidemment, c'est pas un essai. Ça, les gens le comprennent bien. Là, c'est pas un essai sur des choses très abstraites. Là. Bon, les gens comprennent que tu parles de la dimension matérielle du réel. Mm-hmm. Mais je trouve qu'on traite pas, on n'aborde pas souvent beaucoup d'aspects de maquiller. Tu sais, par exemple, tu parles de toxicité, tu parles d'injustice sociale, ouais. Tu parles de la fonderie Horn, tu parles de Rouen.
Hey, en plus, ça, c'est vraiment comme central parce que ma grand-mère est morte du cancer du poumon. Un cancer du poumon qui est probablement lié au fait qu'elle a grandi à côté de la fonderie Horn parce qu'elle n'a jamais fumé de sa vie. Puis c'est un cancer qu'on retrouve juste chez les vétérans de la guerre du Vietnam. Crime, j'ai écrit ce livre-là qui s'est vendu 2 ans après le scandale dont on parle non-stop. Puis je veux dire, les gens font même pas le rapport. Tu sais, même mon éditrice, elle savait pas. Tu sais, c'est comme...
Oui, alors que c'est au début de maquiller, là. Puis en plus... Tu parles de ta grand-mère dans beaucoup de tes textes, donc ça sort pas de nulle part. Puis tu parles de la dimension toxique puis des matériaux à l'intérieur de la fabrication du maquillage. Encore une fois, c'est très lié au sujet, là. Ça va vraiment dans la cohérence du projet. Puis moi, je t'ai vu te faire comparer à plein d'autrices femmes.
Hey, Nelly Arcan. C'est comme, c'est quoi? C'est-tu parce que tu te bleaches les cheveux puis, tu sais, tu couches avec un gars pour de l'argent que tout d'un coup, tu sais, tes livres, t'es dans la filiation de Nelly Arcan, là?
Mais c'est ça. Puis tu parles plus, dans Delete, par exemple, tu parles plus de Francesca Woodman.
Parle de Francesca Woodman.
Qui est une photographe qui s'est suicidée, donc qui est à New York.
Ouais.
Tu parles d'elle, je pense, 3-4 fois dans le livre, alors que Nelly Arcan, tu parles d'elle une fois dans ce texte-là.
Oui.
Je t'ai pas vu en parler beaucoup ailleurs. Puis ta mention, c'est je me demande comment Nelly Arcan faisait pour payer son loyer.
Exact. C'est plus au niveau de la, t'sais, de la réalité matérielle des écrivaines.
On connaît un peu les deux la réponse à ça, mais j'ai quand même envie de t'entendre. Pourquoi, en sachant que tu as fait une maîtrise sur la culture numérique, tu es spécialiste de plusieurs sujets à l'intérieur de cette culture-là, parce que ça couvre quand même très large. Pourquoi on continue d'inviter les autrices femmes à parler d'apparence, de beauté, puis d'autres autrices femmes, je veux dire qu'elles haïssent pas, là. Je pense pas que tu détestes Nelly Arcan, mais tu n'as pas fait de travail particulier là-dessus. Pourquoi c'est si difficile d'être traitée en intellectuelle ou en experte?
Ben de un, la machine médiatique fait que, tu sais, si tu veux apparaître, si tu veux être visible, si tu veux qu'on t'invite, tout de suite, tu te fais caster. Hein. Tu sais, la première fois que tu vas à la radio, moi, c'est ça que j'ai vécu. Je savais que je venais pas juste pour parler de mon livre. Je venais là pour faire un casting. Tu sais, les gens me regardaient, bon, c'est qui cette fille-là? Est-ce qu'elle est capable de parler dans un micro? Puis dans quelle case est-ce qu'on va pouvoir la mettre? Tu sais, t'as des rôles prédéterminés, puis c'est après ça, c'est de dire dans quel rôle est-ce que tu peux jouer, tu sais. Puis c'est ça. Donc, je pense que les rôles qu'on offre aux femmes sont plus limités. Surtout, ça dépend aussi, là. Tu sais, peut-être que si j'avais les cheveux courts, puis je m'habille, tu sais, la représentation du sort aux autres joue un, tu sais, a un impact. Si j'arrivais en col roulé avec des lunettes, puis que je traînais avec moi, je sais pas moi, Das Kapital, peut-être qu'on s'adresserait pas à moi de la même façon. Tu sais, je veux dire, tu le sais, je te l'ai raconté, mais il y a deux semaines, j'étais à Radio-Canada, puis le trois quarts des intervenants pensaient que j'avais 16 ans, puis à cause de ça, mon com un peu tourné le dos, puis m'ont fait sentir comme t'es pas part of the gang, genre. Parce que la façon dont je m'habille, dont je parle, puis ça aussi, c'est un autre piège, tu sais. Est-ce que tu vas être piégée toi aussi, tu sais? Moi, je fais pas ça avec les gens, pourtant, tu sais. J'essaie de les découvrir, puis après ça, genre, je pense que j'ai une posture qui est curieuse puis qui est ouverte.
Je pense qu'on... On traite parfois les artistes, particulièrement les artistes femmes, mais pas seulement, comme si justement ce casting-là se faisait un peu de façon naturelle, tu sais, puis que tout ça, c'était qui les gens sont vraiment. Mais c'est des choix, puis on en parle souvent. À un moment, quand, puis t'en es particulièrement conscient quand tu te maquilles.
Ouais.
Moi, tu me le rappelles souvent, tu sais, se maquiller, c'est choisir exactement, tu sais, la forme que tu vas montrer de toi. Tu crées quand même à partir de... Tu crées à partir du réel, mais tu choisis certaines choses. Donc, tu décides comment, de quoi tu vas avoir l'air. Puis je pensais à Kate Durbin que tu m'as fait découvrir. Ouais. Parce qu'elle parlait du fait que se chosifier, donc ouais. Se devenir objet, on est objectifié constamment, particulièrement en tant que femme, là. Devenir objet, ça avait aussi, il y avait une certaine agentivité aussi là-dedans. T'sais, il y avait on retrouvait une sorte de pouvoir quand on décidait comment est-ce qu'on se chosifiait. Puis après ça, bien sûr que c'est comme un jeu à double tranchant, là. Mais de toute façon, les autres vont le faire pour nous. Mm-hmm. Fait que de jouer avec ça, mm-hmm. C'est ça. Il y a une sorte de danger, mais en même temps, il y a un pouvoir aussi là-dedans.
Ben moi, je pense que, tu sais, on parle souvent de ça là, dans les discours féministes, notamment, tu sais, le devenir objet, la gentilité, blablabla, mais je pense que comme c'est beaucoup plus brouillé, beaucoup plus confus, là, ces rapports-là. D'ailleurs, je veux dire, ça, je pense que je te l'ai déjà dit, mais mettons, dans un rapport de désir sexuel, ben oui, moi, je pense que je peux pas désirer sexuellement sans objectifier l'autre, tu sais, mais il y a un rapport qui est... tu sais, qui est dynamique, c'est-à-dire que comme peut-être que dans l'acte sexuel, ben ça va être je vais objectifier et me faire objectifier, je vais devenir agent et ensuite objet, peut-être que je fais les deux à la fois. Tu sais, il y a peut-être comme une espèce d'écho, c'est un peu, j'ai pensé à ça parce que il y avait comme une artiste, j'oublie son nom là maintenant, mais qui a fait comme une performance qui s'appelait le Touch Cinema. Parce que, tu sais, on parle souvent du male gaze, puis du fait que les femmes, la femme objet à l'écran. Puis là, c'était comme construire un cinéma autour de la poitrine. Puis quand tu tassais le rideau, tu pouvais toucher ses seins. Puis tu avais le droit de tripoter ses boules, mais pour un temps limité, mettons 3 minutes. Sauf que le truc, c'est que autant elle devenait un objet, puis elle était un objet willing devant toi, puis tu pouvais même la tripoter, sauf que tu pouvais juste la tripoter à condition d'être en face d'elle pendant qu'elle te fixait. Fait que toi aussi, tu devenais un objet. Tu sais, il y a vraiment... C'est ça aussi, je pense. Tu sais, c'est comme... C'est pas unidirectionnel, tu sais, objet, sujet. Je pense que c'est dynamique puis qu'il faut qu'il y ait un partage des responsabilités, en fait.
Est-ce que tu vois une différence dans tes projets, dans la façon dont on a traité, mettons, les projets qui sont plus strictement littéraires? Puis il n'y a pas vraiment de distinction là, parce qu'il y a vraiment une continuité entre tes projets. Mais quand même, je dirais que avec Delete puis La pluie des autres, ouais. Il y a quand même une différence avec Maquillée qui était qui a eu un retentissement médiatique plus fort puis qui avait une connexion plus forte avec le monde médiatique. T'sais, est-ce que comment tu réfléchis ces choses-là? Est-ce qu'il y a une frustration? Est-ce que les projets que tu veux faire, est-ce qu'ils s'enlignent plus dans la direction de maquiller ou plus dans la direction de projets plus littéraires? Ou est-ce que tu sors un peu de ça?
Non, j'ai aucune frustration. Je pense que comme les parcours d'écriture, c'est très organique, puis comme un texte en amène un autre, fait que j'aurais pas pu écrire maquillée si j'avais pas écrit mon mémoire de maîtrise ou d'élite, tu sais. Après ça, c'est tellement contextuel. Genre, d'élite, c'est sorti chez Alois de Cravant, qui est pas une maison qui fait beaucoup de publicité, alors que, tu sais, quand Maquis est sorti, le terrain était déjà comme, tu sais, battu 6 mois à l'avance. Tous les journalistes étaient au courant. Puis en plus, j'avais déjà une reconnaissance de mes pairs, tu sais. Je veux dire, d'élite, ça a fonctionné dans le milieu de la littérature. C'est un livre qui, tu sais, qui a charmé beaucoup de gens.
Ben oui.
Mais il n'y a pas eu, oui, de retentissement médiatique. Mais à ce jour, y a, t'sais, le monde le lise. Puis la semaine prochaine, je m'en vais en parler au Cégep Saint-Laurent.
Les gens, ils te voient intervenir dans les médias. Ah, ouais. Ça demande beaucoup de courage puis d'énergie faire ça.
Ouais.
Puis je sais pas, je pense qu'à de l'extérieur, évidemment, je me projette beaucoup, là. Mais t'sais, je pense à La pluie des autres, que je sais qu'il a été difficile à écrire, mais qui est quand même un projet qui touche quand même plus à la fiction, où est-ce que tu as créé des personnages, puis il y a plus une bulle, t'sais, c'est plus fermé, alors que justement, maquillé, vu que c'est un essai, puis c'est plus en lien avec des prises de parole publiques que t'as tenues. T'sais, je me demande, as-tu besoin de ces repos-là? T'sais, c'est-tu comme des oasis, les livres? Comment ça fonctionne?
Bien là, La pluie des autres, je regrette pas du tout de l'avoir écrit, mais c'est le dernier livre que je vais écrire comme ça. Genre, j'écrirai plus jamais de poèmes.
C'est une joke.
Non, c'est pas une blague. Je vais vraiment... Moi, c'est ce que je veux, c'est d'atteindre une certaine liberté. Puis, tu sais, j'en parlais tantôt, c'est que le but pour moi, c'est de désapprendre tout ce que j'ai appris à l'université, tu sais. Puis ça m'a pris beaucoup de livres, puis j'ai même pas fini de désapprendre ce que j'ai appris. Puis là, je m'en viens, je me sens plus libre. Je pense que ça paraît dans maquiller. La plus des autres, j'étais pas libre. Je répondais vraiment à des attentes très, très spécifiques. C'est une commande aussi. La Courte Échelle, c'est comme une maison qui a du succès, avec raison, mais qui est très conservatrice dans son approche de la littérature. Fait que je sentais que j'avais quand même, tu sais, j'avais pas de temps de... Je pouvais pas faire ce qui me plaisait. Là, à partir de ce moment-là... Puis en plus, c'est un bon apprentissage parce que je sais que plus jamais je vais reprendre une commande. Mais maintenant, tous les livres que je vais écrire, ben là, je dis ça, puis comme genre Dieu, là. Mais.
Ben, c'est tes livres.
Ça va être des livres qui vont vraiment m'aider à devenir plus libre dans le genre, tu sais. Puis, fait que ça veut dire que je peux pas dire que je vais réécrire un autre maquillé sur un autre sujet. Ni un autre d'élite. Sérieusement, tous les livres que je vais, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Charlotte, ça va être des ovnis littéraires.
Mais c'est le fun, c'est enthousiasmant.
Ouais, puis genre, je les écris pas en pensant à mes lecteurs puis mes lectrices. C'est vraiment, mon exploration à moi, puis ça m'appartient. Tu sais, puis j'ai juste une vie, là, je vais mourir bientôt. Fait que je m'en fous des gens. Ouais.
Mais non, mais.
Tu parles... Ça n'a pas d'allure!
Tu parles souvent de la mort.
Oui.
Tu parles souvent de la mort, puis il y a un décor continu. Tu sais, il y a toujours des petits objets ou des petites créatures mignonnes et tristes ou blessées dans le décor de tes textes.
Mmh.
Donc, je disais, tu sais, des formes assez différentes, mais une sorte de décor qui. Mais qui est quand même un peu étrange, là. C'est pas botanique, là. On n'est pas dans la forêt boréale du tout. Y a des créatures réelles, des poissons moches, des figurines en papier mâché, y a des courtes pointes, y a toutes sortes d'objets comme ça qui sont parfois, c'est ça, des créatures vivantes, parfois des sculptures, souvent des sculptures amochées, qui ont l'air parfois contentes, parfois tristes. J'aimerais ça t'entendre parler de ce décor-là, comment il a émergé, comment il est lié aussi à l'identité que tu te construis à l'intérieur de tes textes.
Mais c'est pas, je sais pas comment dire, c'est comme vraiment instinctif, fait qu'il y a pas vraiment une raison intellectuelle, mais j'avoue que j'ai toujours aimé les figurines, et ça apparaît quand on me suit sur Instagram, mettons. Mais ma maison est pleine de figurines. Là, d'ailleurs, je viens d'avoir une nouvelle sculpture qui est un pingouin cicatrisé. Puis ça, c'est tellement... Tu sais, c'est un hasard total, mais je commence à peine à m'intéresser sérieusement à la figure du pingouin. Puis c'est comme un animal qui me parle, puis sa signification aussi, tu sais, comme dans les récits, dans le discours, tu sais, puis dans les récits exploratoires, puis fait que je sais pas. Mais là, après ça, c'est des échos familiaux, mais est-ce que ça m'a influencé? Tu sais, moi, mon père, quand j'étais jeune, il étudiait en photo au Cégep du Vieux-Montréal, puis sa carrière artistique, elle a duré très peu longtemps. Mais quand il produisait, c'était des photos de jouets qu'il prenait. Puis je me rappelle qu'il y avait des sacs chez nous de plastique, puis c'était les sacs de jouets à mon père. Puis souvent, j'allais comme jouer dedans, mais tu sais, c'était vraiment comme un monde miniature. Puis en même temps, il y avait comme un aura mystérieuse parce que mon père utilisait ça pour faire son art. Mm-hmm. Après, c'est des choses, tu sais, je sais pas, c'est les objets. Je suis une amante des objets. Tu sais, ma sœur jumelle aussi, c'est quelqu'un de très, très, très passionnée des objets. Puis elle a des obsessions. Tu sais, pendant un bout, c'était comme les boules de Noël soviétiques. Puis là, elle en a acheté, là, tu sais, comme elle a dû acheter des containers spéciaux pour les entreposer. Puis là, elle s'est mise aussi à lire là-dessus, à faire des recherches sur l'origine du bonhomme carnaval, de l'iconographie. Tu sais, c'est passionnant, en fait.
Mais oui, les objets sont passés. On découvre ça dans ton travail, ouais. Que les objets ont une histoire. Pour Zinc, tu fais des entretiens, en fait, t'as des rencontres avec toutes sortes d'artistes, artisans. Puis la première que t'as faite, c'était avec une artiste pâtissière qui s'occupe de Violette Bakehouse.
Ouais.
Je pense qu'elle s'appelle Laure McGowan.
Ouais, Lauren. Ouais.
Lauren, excuse-moi. Lauren McGowan. Tu parles dès le début du texte, en fait, de la conscience que tu as, mais qu'elle aussi a, du fait que les motifs en frou-frou, les choses très féminines,
ouais.
Mais même cet amour-là pour les objets un peu incongrus, mm-hmm. Beaucoup liés à l'enfance puis ouais. À la domesticité,
mm-hmm.
Sont mal vus. Tu parles des objets que ton père avait, tu parles des jouets, des figurines. Comment t'expliques ça, l'espèce de... que le rejet qu'on a en vieillissant... t'sais, mettons, à l'adolescence, on rejette ses jouets, on les cache, on veut plus jouer avec, on n'est pas cool. Puis quand on est plus vieux, on rejette spontanément pour être bien vu en société.
Mm-hmm.
On arrête d'aimer les figures. Au fond de notre cœur, on aime tous encore
les figurines.
Mais
moi, j'ai jamais arrêté. Puis tu sais, je veux dire, ça remonte à très... T'sais... Quand moi et ma sœur, on était jeunes, on avait des collections de miniatures. Puis ça, c'est vraiment poche parce que cette époque-là, peut-être, j'avoue que j'ai peut-être rejeté, parce qu'on a eu une époque, tu sais, cleaning. Puis là, toutes nos familles étaient girafes en céramique, toutes les petites tortues, tout ça, boum, poubelle. J'en reviens pas. Genre, j'ai encore le souvenir de ces mini-figurines-là que, genre, j'allais acheter au magasin chinois avec ma grand-mère. Puis là... gone.
C'est vous qui les avez jetés?
Je pense, oui. Puis, ouais, comment expliquer ça qu'on rejette tout ça?
Ou que vous l'avez pas fait? Pourquoi?
Parce... Mais encore là, c'est ambigu parce que je te dis que j'ai jamais fait ça, puis finalement, je me rends compte que j'ai jeté mes familles de girafes. Mais en même temps, il y a cette idée-là aussi dans ma famille que les objets, c'est quelque chose de sérieux, tu sais, comme chose sérieuse. Ma grand-mère, c'est une collectionneuse d'antiquités, c'est une hoarder. Mais tu sais, il y a toutes les choses dans sa maison, tu sais. Je veux dire, je lui ai déjà demandé de me donner comme une nappe, je pense, parce que je déménageais puis j'avais plus un meuble. Puis elle m'a même pas donné une nappe parce qu'elle est attachée à chaque parcelle de sa maison. Puis c'est une maladie mentale. Là. Tu peux même pas t'asseoir sur son divan parce qu'il y a des choses sur le divan, en dessous du divan. C'est débile. Tu sais, j'ai grandi comme avec des gens qui sont fascinés par des objets. Même mon grand-père, tu le sais, qui s'est suicidé, il a mis sa mort en scène avec des objets, des figurines. Fait que dans ma famille aussi, les objets sont pas utilisés juste pour... jouer, ou c'est pas juste le domaine de l'enfance, c'est vraiment les choses, la communication non-verbale. Tu sais, il y a des choses qui sont lourdes, qui pèsent, peuvent se dire avec des objets.
Les objets, c'est aussi souvent des cadeaux dans la vie.
Ah ouais.
Puis tu parles souvent des objets que tu as reçus. T'sais, si on va chez toi, il y a une explication souvent à beaucoup d'objets. Puis c'est pas quelque chose... évidemment, c'est de l'ordre de l'intime, mais moi, je me souviens de t'inviter dans un cours puis que tu en parles aux étudiants. Là, donc, mm-hmm. t'as vraiment une sorte d'ouverture par rapport à ça. Puis tu vas parler de certains textes de la même façon.
Ah ouais.
Je pense à Tropico. À la fin de Tropico, il y a une conversation entre toi et l'autrice, Marcela Huerta. Donc, tu as fait la traduction de Tropico, le recueil de Marcela. Puis tu parles des fragments des textes de Marcela comme d'un cadeau qu'elle nous fait.
Ouais.
Puis c'est quelque chose qui revient. Puis il y a un lien que je vois entre les objets puis ton rapport à la communauté, le lien entre création et communauté. Il y a quelque chose aussi, les objets, c'est pas... bien sûr que ça a des symboliques, mais ça contient aussi les traces de relations.
Des histoires. Souvent, moi, je pense que c'est... Je sais pas si c'est dans mon premier livre ou dans Delete, mais il y a une façon pour moi... Tu sais, si je rencontrais un gars avant, quand j'étais plus jeune, genre à 20 ans, ben je savais pas quoi dire, ben je déballais ma sacoche. Genre, puis genre... Toutes les choses dans ma sacoche, je transportais tout le temps des joujoux, des figurines. Puis là, j'avais une histoire derrière chaque affaire. Fait que là, j'ouvre ma sacoche, c'est un peu comme ouvrir le cœur, genre le corps. Ouais, fait qu'il y a une histoire derrière chaque objet. Puis aussi, je pense que comme quand on écrit, là, cette démarche-là d'écriture, c'est une façon de sémantiser le monde, tu sais, de donner un sens à des choses. Puis les objets qui sont dans ma maison ou dans mon espace de vie, dans mon terrain d'écriture, c'est des parcelles de sens qui sont disposées un peu partout. Puis d'ailleurs, j'écris à partir de ces objets-là. Tu sais, je sais pas si tu sais, mais le petit monstre en papier mâché jaune sur le rebord de ma porte, ouais. de ma fenêtre, ben il est dans maquillé. Mais il n'y a personne qui le sait. Ouais, à un moment donné, je parle d'un petit monstre jaune à trois pattes. Mais c'est lui! Et moi, je me dis, les gens, ils ont pas... Tu sais, ils lisent ça, mais un peu en diagonale. Comme, tu sais, c'est normal qu'elle parle de ça tout d'un coup. Il y a beaucoup, beaucoup de petits objets comme ça qui se retrouvent dans mes textes, mais ça, c'est juste parce que c'est mon paysage à moi, tu sais, c'est ça.
Ouais, je trouve ça beau. Puis je veux insister un peu sur la question de communauté parce que c'est ça, je disais que avec les médias, tu déconstruis beaucoup de discours médiatiques puis tu te creuses un espace à toi. C'est vraiment... pas toujours facile, là, mais il y a quand même ce désir-là, tu sais, avec le podcast, puis avec ta façon d'écrire, ta façon aussi de parfois d'envoyer des lettres aux journaux.
Ouais.
Mais il y a aussi, t'as aussi une façon d'exister dans le milieu littéraire et qui est de rassembler les gens et de créer un espace puis une communauté autour de toi. C'est important, ça, la communauté. Puis j'aimerais ça peut-être que tu nous parles un peu plus de, tu sais, comment t'as vécu ça, parce que t'as ça fait longtemps là, que tu fais de la scène, que tu existes dans le milieu de la poésie, de la littérature au Québec, que tu grenouilles là-dedans.
Oui, parce que dans le fond, avant de publier, puis même, tu sais, je parle souvent de quand j'habitais en Asie, quand je suis revenue d'Asie. Quand je suis revenue d'Asie, j'ai vraiment intégré le monde des micros ouverts, tu sais, autant anglophone que francophone. Puis là, j'étais dans le milieu littéraire, mais même avant ça... Tu sais, je veux dire, au bac, j'avais un blog qui s'appelait Les Nounes en dentelle. On était plein de filles qui postaient là-dessus. Même Roxane Desjardins a participé. Fait que, tu sais, ça a toujours été une histoire de, tu sais, groupe, puis de, comme...
Il y a eu Filles Missiles.
Filles Missiles, ouais. Tu sais, pour écrire, il faut être des lecteurs, en tout cas dans ma tête, là. Puis à mon sens, c'est là que naît le désir d'écrire, tu sais. C'est l'idée... De joindre ta voix à celles qui t'ont marqué puis à celles qui s'en viennent aussi, tu sais. Puis, dans le fond, de joindre une genre de famille. Puis souvent, cette famille-là, elle t'a donné beaucoup, tu sais, elle t'a permis de traverser des événements, à te sémantiser un peu les problèmes que t'as traversés, que ça soit des gens morts ou vivants, là, tu sais, les voix qu'on lit... puis qui traverse les siècles, c'est tellement une expérience magique de communauté parce que tu te sens mieux dans ta solitude, mieux dans ton humanité, tu sais. Fait qu'il y a déjà ça dans la lecture. Fait que j'imagine que pour moi, l'écriture, ben, il y a l'idée d'écrire, oui, quand moi, je suis seule, j'écris dans la solitude, mais au final, la littérature, c'est une expérience qui est collective. Puis ça se partage, ça se vit aussi, je sais pas. Puis la poésie aussi, là, je dirais que surtout la poésie, parce que c'est aussi, comme tu disais, quelque chose qui est mis en scène, qui est scénique, qui est lié à la voix puis au souffle. D'ailleurs, je pense que c'est comme une des premières formes d'art, non? Ouais, parce que, ouais, je veux dire, avant que l'imprimerie soit quelque chose de répandu, bien, les choses étaient apprises par cœur puis déclamées de village en village.
Oui, mais il y a plein de gens qui vont trouver ça, qui peuvent trouver ça anxiogène, difficile. Ah, ouais. Autant les micros ouverts que les lancements.
Bien, c'est hyper anxiogène. Puis, tu sais, moi, j'ai vécu toute cette anxiété-là. Je l'ai vécue puis je la vis encore. Mais ça fait partie aussi du deal, genre, puis du phénomène de c'est quoi, genre, t'exposer. Tu sais, comme on dit souvent ça, là, c'est, l'écriture, c'est une prise de risque, mais quand tu montes sur un stage devant un micro puis tu t'en vas lire le texte que t'as écrit, là, tu la ressens en crise, la prise de risque, là, parce que t'es confronté aussi à ton lectorat, là, ou à ton auditoire. S'ils rient, s'ils parlent par-dessus toi, tu sais, t'as toutes ces choses-là qui viennent.
Puis comment tu sais quand un texte, il marche? Tu sais, sur scène, tu sais, chez toi, dans ton lit?
Ouais, habituellement, quand un texte fonctionne, je le sais tout de suite. C'est comme dirait Bukowski, pour citer un cave. C'est comme quand tu fais une grosse étron, puis que tu la regardes dans le bol, puis t'es comme, t'es comme un peu fier. C'est tellement dégoûtant, mais comme c'est ce feeling-là, genre, tu sais, il y a des textes, c'est comme, dang, tu le sais.
Tu m'as pas parlé, tu me parles pas souvent de Bukowski, mais je t'ai demandé pour l'entretien d'aujourd'hui,
ouais,
de parler d'une influence. Puis tu as travaillé au Drawn and Quarterly, puis ouais, tu lis beaucoup, je l'ai dit. Donc, tu as une culture de autant la poésie plus narrative que la non-fiction. Donc, tu as vraiment, tu sais ça, tu lis beaucoup, beaucoup de romans graphiques aussi, beaucoup de bandes dessinées. Mm-hmm. Mais étonnamment, tu es allée dans une autre direction. Tu veux parler de... Tu voulais dire un mot sur Pessoa.
Juste pour avoir l'air, genre, intellectuel.
Mais non, c'est pas la première
pour
fois
vrai,
que
t'en c'est parles. Que ça, c'est un livre... Par exemple, on parlait de territoire tantôt, puis genre, mon atelier, c'est mon lit, mais j'ai récemment acheté une table de chevet parce que j'ai toujours des livres à côté de moi quand j'écris. Puis là, ils étaient par terre, puis ça ramassait la poussière. Fait que là, c'est comme une façon de les garder. Il y a des livres que j'ai pas lus que je veux lire pour le projet dans lequel je suis. Puis il y a aussi les livres qui m'accompagnent. C'est juste la présence. Des fois, c'est juste une présence que je veux. Puis je l'ai pas fini, là. Ça fait des années que je le lis, mais tu sais, c'est pas genre de livre que... Tu sais, il y a pas d'intrigue.
C'est le livre de l'intranquillité, ouais, de Fernando Pessoa.
Puis ça m'intéresse, le fait qu'il n'y ait pas d'intrigue, puis que ça soit des fragments qui, ensemble, forment vraiment un tout cohérent, mais mis à... Tu sais, genre, si tu peux lire un fragment, puis en lire un autre 30 ans plus tard, puis tu vas quand même... Tu vas quand même aimer ça, là. C'est comme un livre, pour moi, qui a été écrit dans une liberté comme absolue. D'ailleurs, je pense pas qu'il ait été publié de son vivant.
Non, c'est publié de façon posthume.
Fait que j'admire la liberté qu'il y a derrière cette démarche d'écriture-là.
C'est aussi un livre qui est vraiment pas romanesque. Puis dans ton écriture, tu parlais de désir plus tôt. Mais il y a un désir très fort qui porte les livres, là, donc qui fait qu'on tourne les pages, ouais, on avance. Mais il y a vraiment pas le désir de faire du roman.
C'est ça. C'est peut-être pour ça que ça fait des années que je le lis puis je me sens pas mal, parce que je perds pas le fil d'une intrigue, mettons. Mais c'est comme à cheval. C'est aussi un... Tu sais, c'est un ovni littéraire, comme on dit. Tu sais, c'est à cheval entre la poésie, l'essai, les méditations. C'est très mélancolique, mais tellement mélancolique parfois que c'est comme une mise en scène de la mélancolie. Ça aussi, ça m'intéresse. Tu sais, j'ai... Tu sais pas si le narrateur, il est vraiment totalement honnête. Puis moi, je trouve que ça rend la chose vraiment, vraiment humoristique des fois. Puis ça, c'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que je pense que j'ai ça des fois en moi. Tu sais, oui, c'est donc triste. Le monde dit c'est touchant, ton affaire. Mais il y a de la mise en scène là-dedans, les amis. Tu sais, puis je joue avec ça, là, vraiment beaucoup dans mes livres. Fait que... C'est pas parce que je les ai pas ressentis, les émotions que je décris, mais je sais que je suis dans un territoire aussi où, tu sais, qui a été visité, revisité, puis qu'il y a toutes sortes de topos ou topoi, là, je sais plus c'est quoi, ou... mais puis que moi, c'est ça aussi que j'aime. J'aime visiter des images qui sont clichés. Tu sais, je veux dire, au début de ma carrière, là, j'adorais tous les récits de la conquête de l'Ouest, les cow-boys, les Indiens. Tu sais, c'est des territoires que j'aime. Tu sais, là, je lis sur les explorations polaires, mais il y a toutes sortes de clichés qui sont rattachés à ça. Tu sais, c'est un univers super masculin, nanana. Puis moi, c'est quand je tombe sur ces clichés-là que je trippe.
Mais oui, en fait, ça me frappait en relisant tous tes livres à quel point tu laisses pas beaucoup d'espace pour le tragique. Tu sais, tu parles de sujets super difficiles, mais je dis pas ça comme un... C'est pas un reproche, là, c'est plus au sens qu'il y a beaucoup d'humour dans des moments où on s'attendrait pas à ce qu'il y en ait. Tu sais, des fois, des phrases... Je pense que c'est dans Delete, mais là, j'avoue que les récits s'entremêlent, mais il y a un moment où est-ce que la mère de la narratrice s'adresse à elle d'une façon qui est très intense. Je pense qu'elle lui parle de suicide ou du suicide de son ami Julien. Ouais. Là.
Genre, il prenait-tu de la drogue? Point. Mais c'est drôle, c'est l'absurde. C'est comme ça. C'est la chose qu'on va souvent peut-être entendre dire. C'est comme...
Ben, dans l'intranquillité, il y a aussi la... Je sais pas si c'est la peur de mourir, mais il y a aussi l'angoisse, là, quand même, une sorte de... Je sais pas. Tu sais, moi, j'ai trouvé que dans ton choix de livre, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup l'idée d'intranquillité, qui est pas, qui est pas l'inquiétude, qui est juste comme « je suis pas tranquille », qui est notre état un peu à tout le monde, là, qui est... On est tous un peu... pas tranquille.
Puis j'aime la figure aussi de cette personne-là qui travaille genre 9 à 5. Je pense que c'est comme un comptable, puis il a une vie un peu beige. Puis là, il arrive chez lui, puis il écrit des trucs hyper profonds, hyper misanthropes. Il aime personne. Il n'y a pas d'histoire d'amour ou c'est juste des trucs qu'il a vécu dans son passé. T'sais, il est vraiment dans une posture aussi comme Lana Del Rey. T'sais. La déchéance est toujours là où elle est toujours déjà arrivé. Tu sais, il y a comme... Ouais, ça se retrouve aussi beaucoup dans mes livres. Mais je voulais te dire... J'ai dit Pessoa, mais j'aurais dû dire aussi toutes sortes de livres qui sont pas nécessairement, genre, classés littéraires, là, parce que j'utilise beaucoup de manuels, tu sais, manuels de biologie pour les enfants, encyclopédie pour les enfants. Avant, j'avais comme un livre de survie en forêt qui est mentionné dans Delete, mais que j'ai beaucoup utilisé. Fait que tous les gens de la paralittérature ou la littérature qui n'est pas considérée littéraire, ça, c'est vraiment des choses qui m'inspirent beaucoup.
Puis comment tu t'en sers? Tu reprends des passages ou tu te sers de comme des récits qui sont là-dedans ou qui sont sous-tendus un peu par ces manuels-là?
Ouais. Comment je m'en sers? Des fois, là, en ce moment, je lis l'encyclopédie. Des fois, c'est la structure ou les mots ou les idées qui sont abordées, mais je vais les utiliser. Ben là, c'est ça, c'est parce que tu sais, un peu mon projet, je suis en train de revisiter une encyclopédie pour enfants. Mais à travers ça, là, j'étais comme, ah, je pourrais comme... Tu sais, j'ai tellement d'options, j'ai tellement de liberté. Ça peut la trame narrative peut aussi s'enchasser dans une trame d'explorateur polaire. Tu sais, tu peux... Mais ça, c'est tout des grands récits, des discours très, très, très visités, clichés. Ça, j'adore ça. Après, la façon que je les utilise, ouais, c'est dur à dire.
Mais non, en fait, c'est assez clair. C'est drôle parce que ça ressemble plus à une pratique qui est commune en art visuel qu'en littérature. Là, revisiter des formes très usées, c'est quelque chose qu'on voit quand même beaucoup plus en art visuel, qui est peut-être plus facile à comprendre aussi. Là, dans le...
Peut-être. Mais après ça, j'ai d'autres façons de lire les livres. Mettons, tu sais, le manuel de biologie, je vais le lire, puis j'ai comme surligné tous les passages que je trouvais comme vraiment beaux puis poétiques. Mais dans le fond, ça fait un peu comme un cut-up des fois parce que je mets des mots. Après, est-ce que j'ai utilisé ces choses-là? Peut-être, oui, des fois dans des textes, mais je le dis, genre, dans mon manuel de biologie, ça dit telle affaire. Tu sais, j'utilise ça aussi un peu comme... Je ris aussi de l'autorité, du savoir. Tu sais, comme les choses que je lis là-dedans, c'est totalement absurde. Des fois, ça parle de grenouilles naines, puis comme les dinosaures sont morts, comme des mouches en avril. Tu sais, comme, tu sais, il y a comme tellement des choses vraiment hyper drôles, puis comme absurdes. Puis moi, je suis juste comme, voilà ce que la science dit.
Oui, voilà que la science est un peu ridicule.
Oui, effectivement. Ben, ouais. Dans le fond, c'est un discours.
Avant qu'on entre dans ton projet, j'avais une question à te poser sur justement l'usage que tu fais. Bon, les manuels, c'est pas trop problématique,
ouais.
Mais l'usage que tu fais des noms des personnes réelles, ouais. Puis des voix des personnes réelles,
ouais.
Parce que tu le fais pas dans tous tes livres, mais quand même très souvent, tu ouais. vas mettre en scène ta vraie vie avec les vraies personnes à l'intérieur.
Ouais.
Des fois, tu les nommes pas. Des fois, c'est une amie, un ami me dit. Mais quand même, souvent, tu donnes les noms.
Ouais.
Est-ce que ça t'a déjà posé problème? Est-ce que c'est quelque chose auquel... Est-ce que tu y penses beaucoup? Comment ça s'inscrit dans ta réflexion?
Je pense que le premier livre où j'ai nommé quelqu'un ou des gens, c'est dans Delete. Je pense que la personne comme qui était le plus concernée, c'était Charles, mon premier grand amour. Puis ça donne que, dans le fond, mon éditeur, c'est le chum de Myriam Gendron qui est une amie d'enfance de Charles. Donc, le manuscrit a été lu, je pense, ou approuvé par Charles, ou en tout cas... Il était d'accord avec cette idée-là, mais c'est sûr que s'il n'avait pas été d'accord, j'aurais changé son nom. Mais lui, il était comme content qu'il y ait une trace de son vécu publié quelque part, genre. Puis c'est souvent ça, je remarque, les gens, là, en tout cas, ceux qui n'écrivent pas, peut-être, parce qu'ils n'ont pas le contrôle de la narration. Mais en fait, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est comme, effectivement, qu'il y a une violence sous-jacente au geste de l'écriture parce que c'est ta version des faits. Mais c'est comme, dude, pour une fois que je peux parler, genre. Puis comme, too bad, te coucher avec une autrice, tu sais. mon Dieu, c'est horrible. Après ça, c'est vrai que j'ai mentionné d'autres gars dans ce livre-là. Peut-être que la personne qui a la moins belle figure, c'est Brian. Mais bon, à l'époque, ils habitaient encore en Asie. J'avais l'impression que j'allais plus jamais le revoir de ma vie. Puis non, ça me fait pas un pli. tu sais, c'est ça, c'est parce que j'ai l'impression, en tout cas là, je sais, mais j'ai tellement vécu de violence relationnelle dans ma vingtaine. Puis tu sais, c'est peu là, ce que je dis. Je dis quand même pas qu'il m'a violée, pourtant. puis tu sais, fait que non, c'est moi qui ai le genre, c'est mon pouvoir, mon Dieu. Si je peux en avoir un, c'est bien d'écrire.
Ouais, puis là, je dis ça, mais par exemple, dans la série texte que tu as fait pour Zinc, c'est des reportages, des rencontres avec des gens, puis là, tu les mets vraiment en valeur, là, tu sais. Donc, je disais, tu utilises les vrais noms, mais c'est pas toujours sous un jour négatif.
Ben non, pas en tout. Après, j'utilise les vrais noms de mes amis parfois, mais là, dans Delete, j'avais beaucoup de noms, parce qu'il y a beaucoup d'amis qui étaient nommés, puis quelqu'un m'avait dit, hey, ça, tu sais, on perd le fil, blablabla. Fait que toutes mes amies gars, je les ai rassemblées sous un même nom. Qui était Tom, puis toutes mes amies de filles, Marie. Mais en fait, plusieurs personnes se cachent sous la personne de Marie, puis vice-versa. Là.
Parce que le réel est toujours plus complexe.
Ouais, vraiment. Après ça, j'essaie de penser. Maquillée, j'ai mis des initiales, je pense. Mais c'est vrai que c'est ma vie, puis j'ai peur des fois, surtout par rapport à ma mère. Pour moi, nommer quelqu'un, c'est un rapport très, très affectif, les noms. Puis si je donnais un autre nom, on dirait que ça sonnerait faux.
Mm-hmm. Ben oui, je comprends. Ouais. Puis dans le projet qui t'occupe en ce moment, moi, je le connais un peu. Mais en fait, c'est ça, t'as publié sur Facebook que tu lisais beaucoup sur les explorations polaires.
Mm-hmm.
T'as publié aussi un tout petit morceau en France... avec un zine, puis là, le nom m'échappe, mais c'est...
Confiture.
C'est ça, dans Confiture, que j'ai, donc, un extrait qui va peut-être se retrouver dans ce projet-là.
Mm-hmm.
Mais je me demandais si tu étais à l'aise d'en parler. Je sais que je t'ai demandé d'apporter... je t'ai demandé d'apporter un morceau de texte.
J'ai oublié. Mais c'est pas grave, c'est parce que j'en ai sur mon cell.
Oui, c'est ça, je sais. C'est pour ça que je n'étais pas inquiète.
Là, j'ai un document que je m'envoie tout le temps sur Gmail. Je l'ai un peu ouvert au hasard, puis c'est un document que j'écris depuis... au moins la parution de Delete, donc 2017, fait que ça fait super longtemps, puis des fois, il y a des fragments que je reconnais même pas ou que je me souviens pas d'avoir écrit parce que ça fait trop longtemps, puis je suis pas rendue à l'étape où je collige ce que j'ai fait, tu sais, je suis vraiment plus dans la production. Puis c'est vraiment... au début, c'était pas ça, tu sais, au début, il y a comme une grosse partie d'errance, puis là, je réécris comme une encyclopédie pour les enfants, puis c'est le tome 1, fait que c'est la lettre A. Et vous allez tout comprendre. Puis ça parle aussi, ça c'est comme intéressant parce que dans le fond, mon terrain d'écriture puis mon atelier est comme présent dans mes textes souvent. Tu sais, je parle souvent que je suis assise, je parle souvent que je suis dans mon lit, tu sais, ça revient souvent dans mes textes, mais là c'est encore le cas. OK. Parce que c'est un personnage qui est moi, mais qui n'est pas moi, c'est un personnage fictif, puis la personne est dans un projet d'écriture. Fait que c'est comme un peu une fiction, mais pas vraiment.
OK, on okay? t'écoute.
OK. A pour Alaric. On ne connaît pas exactement le jour de naissance d'Alaric, mais comment le connaître avec certitude lorsque cela fait plus de 1550 ans? J'aimerais être comme Alaric, le chef des Wisigoths, une barbare. Je rêve des Wisigoths lorsqu'ils marchaient sur Rome. Dans ce scénario, nul besoin de jouer la gentille, je suis coupable. Je me venge avec ma propre épée, découpe tous ceux et celles qui m'ont fait mal. Couverte de sang et de bijoux, crainte et adulée, j'obtiens justice, même si je tombe avec grandeur, comme le pétale d'une rose. Je tombe magnifique, je tombe. J'ai la plus magnifique des tombes. Le nain frappe à ma porte. Comme un chat, il a décelé ma tristesse, une forêt rasée à blanc que l'on survole en hélicoptère. Il me serre dans ses bras, je me laisse toucher, je ne dis jamais non. Il m'apporte encore des boîtes, des livres que je ne lirai pas, des lacets pour mes bottes d'hiver, même si en Californie c'est toujours l'été, un nouveau tapis de yoga, des sachets de tisane à la menthe. « Tu es une chef Wisigoth », me dit le nain. Ce qui te fait vivre, c'est une faim sourde et rouge. Il y a environ 1550 ans, l'empereur de Rome a fait des promesses à Alaric et ne les a pas tenues. Alors, le chef des Wisigoths a pris d'assaut la ville de Rome. Peu de temps après avoir obtenu sa vengeance, il est mort. Dans l'encyclopédie, c'est écrit « Les lieutenants d'Alaric ordonnèrent à leurs prisonniers romains de détourner le cours d'un petit fleuve de montagne. Les prisonniers ont creusé une tombe et ont enterré Alaric dans le lit de la rivière détournée, sous une pile de roches. Puis, ils firent reprendre au fleuve son ancien cours. Dégonflé dans le lit d'une rivière, sous le collier d'argent d'une géante, le corps d'Alaric repose en paix. Comme il ne voulait pas qu'on sût où Alaric était enterré, les Wisigoths tuèrent les prisonniers qui avaient fait ce travail et le fleuve a gardé son secret pendant des siècles. Le nain me dit « notre secret ». Et Amazon offre un rabais de plus de 40% sur la marchandise enchantée à l'occasion du Black Friday. Tu pourrais t'acheter un cristal, une roche qui a passé un an et demi dans la poche de celui que tu aimes sans raison. Voilà ce qu'était venu me dire le nain. Dans le fond, il y a plusieurs personnages, puis ça, c'est vraiment brouillon, là, mais il y a comme un nain qui est Amazon. Le nain du courrier, c'est un... C'est
ouais,
un...
Ouais.
J'ai pas fini, je vais continuer un petit peu. Okay?
On t'écoute.
Parce que là, c'est avant que j'écrive maquillage, fait que c'est comme intéressant parce que ça parle de maquillage. Je m'achète du maquillage, des tubes de nuages au cas où tu reviendrais. Je veux que tu me vois triomphante, couverte d'une pluie d'argent comme la rosée. Ma vengeance est de réécrire le monde. Je révisite l'encyclopédie de tout ce qui commence par A et je mets ton nom. D'abeille à argent, tu n'es qu'un personnage. C'est moi qui t'invente et je le fais avec violence. À mesure que je t'écris, je t'efface. Le nain Amazon, c'est encore lui qui frappe à ma porte. Tous les jours, il me délivre des boîtes. Je fais semblant de rire à ses jokes plates. Il vient de poser sa main sur ma cuisse, ce qu'il pourrait être tenté de remplir avec des gestes, je le remplis pour lui avec des mots. Je parle vite de trèfle à quatre feuilles, de lapin, de politique, d'une enseigne lumineuse, du deuil de quelqu'un qui n'existe pas. Il me laisse tranquille. Je pourrais vider mon compte en banque en un seul clic en achetant des petites choses en plastique, des petites choses qui n'ont rien à voir avec la vie. La nuit, je visionne des tutoriels de maquillage rivés à mon écran jusqu'à l'heure où les ivrognes déboulent les marches en poussant des cris de souris. La fille du vidéo essaie plusieurs nuances d'ombre à paupières, super choc. Elle confie à ses auditeurs qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que la vidéo d'un homme qui hache de la coriandre. Ça me paraît plausible. Je m'arrache à moi-même chaque matin en regardant des vidéos satisfaisantes. Des mains parfaitement manicurées qui râpent la surface crémeuse de plusieurs savons. J'aime voir la peau rose et menthe de la glycérine se faire gentiment scalper et tomber en ruban régulier sous la lame d'un rasoir. C'est une douleur douce, un sadisme acceptable. La fille du vidéo poursuit son tutoriel, me parle d'un délicieux marron couleur terre cuite, d'une ombre mauve qui s'appelle Daddy et d'un vert qui rappelle l'écume sur le corps des sirènes. Je dépense ma vie, je l'amenuise, mais je veux m'assurer de sélectionner les meilleures nuances. Je veux me gaspiller pour des ombres que personne ne verra, sauf moi et le nain. Je suis en voyage sans bouger. Mon lit est un bateau, un magasin ouvert toute la journée. Néanmoins, certaines parties de la tragédie ne sont pas tragiques et je me demande si ces parties sont les couleurs, celles que l'on met sur nos paupières.
Ça fait le pont entre maquiller puis le projet qui s'en vient.
Ouais, hein?
Intéressant, ouais. Quand même.
Puis, tu sais, là, c'est comme... Je lirais vraiment pas ça dans un micro ouvert, n'importe quoi, parce que c'est vraiment un texte qui est pas travaillé. Tu sais, c'est comme un brouillon total.
Merci beaucoup, Daphné, d'avoir accepté de nous partager des morceaux de texte, des influences, ouais. Puis d'avoir partagé sur ta démarche d'écriture.
Bien, merci, Charlotte!
Pour trouver toutes les informations sur le projet Terrain d'écriture et pour trouver les autres épisodes, rendez-vous sur la page Internet du CRILC, crilcq.org. Terrain d'écriture est lié à mon projet de postdoctorat qui est financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. La série d'entretiens est rendue possible grâce à deux organismes, grâce au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoise, le CRILC, reconnu et financé par le FRQSC depuis 2003, et grâce au partenariat Littérature québécoise mobile, LQM, financé par le CRSH depuis 2019. La magnifique image du visuel est de l'artiste Camille Lamy. Un grand merci à Annie Tanguay et à Benoît Bordelot pour l'aide à la coordination du projet. L'enregistrement des entretiens est assuré par Ève Lemieux-Cloutier dans les studios de Choc à l'UQAM. Je m'appelle Charlotte Biron et je vous dis à très bientôt.